J'ai commencé la dernière fois à regarder une petite topique de l'acte avec vous, c'est-à-dire essayer de voir la position d'Aristote par rapport à ce problème de l'acte et de la puissance. Étant donné qu'il est quand même dans ce problème de l'acte et de la puissance le premier à avoir distingué d'une manière aussi nette l'être en acte et l'être en puissance, l'énergeia et l'entelekeia. Alors je vais assez vite puisque le séminaire est sur le livre Theta et qu'il y a une partie des étudiants qui suivent le séminaire, mais c'est quand même bon de regarder la manière dont Aristote saisit l'être en acte et l'être en puissance. Nous avions vu le début la dernière fois, et nous étions restés au chapitre 6, et qui est évidemment le grand passage sur lequel nous arrêterons un tout petit peu. Donc, livre Theta, chapitre 6. Je prends la traduction Balmès. Elle est dure, mais elle est au moins littérale, alors. Ayant donc dit, alors nous allons voir là comment Aristote, après le début sur la dunamis, essaie de montrer comment l'intelligence humaine, comment le philosophe, aboutit à saisir l'être en acte et l'être en puissance. C'est toujours un peu chaotique, hein, la pensée d'Aristote, il ne faut pas l'oublier. Ça fait partie de son génie. Ayant donc dit ce qui concerne la puissance, qui se dit selon le mouvement, déterminons concernant l'acte. Ce qu'est l'acte et quel mode déterminé d'être il est. Donc les deux aspects qu'il faut bien comprendre, le tiesti et le poionti. Qu'est-ce que c'est que l'acte et quelles sont les modalités ou les modes ou la qualité de l'acte. Aussi bien, ce qui est en possibilité de sera-t-il en même temps manifeste à ceux du moins qui discernent que nous ne disons pas en possibilité cela seulement qui est par nature apte à mouvoir une autre réalité ou à être mu par une autre réalité, que ce soit absolument ou d'une certaine manière, mais que nous le disons aussi d'autre façon, d'où vient que tout en cherchant, nous sommes passés par des considérations qui concernent aussi ces dernières. Donc ça, c'est simplement un rappel. Et dans le point de vue précédent, je vous avais dit, il y a un moment très important à bien comprendre dans la pensée d'Aristote, c'est le point de vue du possible, le passage de la dunamis à dunaton, qui, je crois, est très important dans la perspective d'Aristote. Qu'est-ce que c'est que le possible? Quand on est au niveau de la dunamis, on est au niveau d'un principe de mouvement qui transforme un autre en tant qu'autre. Quand on est au niveau du dunaton, c'est le passage de l'aspect du mouvement vers le point de vue du possible qui peut être au niveau de l'être. Et alors, tandis qu'ici, c'est le souci d'Aristote d'essayer de comprendre le lien qui existe entre être en acte et être en puissance. Alors, voici le point de départ. Et acte. Par conséquent, ce qui fait que la réalité se présente exister d'une façon qui n'est pas celle dont existe ce que nous disons être en puissance. Si vous voulez comprendre, vous voyez que c'est très simple. L'acte s'oppose à être en puissance. C'est tout simplement cela. Première chose. Donc, on s'approche de l'acte par la négation. Donc, ça ne dit absolument rien de ce que c'est que l'acte. Hein. Nous disons en puissance, dans le bois, par exemple, Hermès, et dans la ligne entière, parce qu'elle en serait séparable, la demi-ligne. Et nous disons savant même celui qui n'est pas en train d'appliquer son intelligence, s'il est en possibilité d'appliquer son intelligence avec science. Et cela même, par contre, nous le disons en acte. Ce que nous voulons dire est manifeste par l'induction sur les réalités singulières. Il ne faut pas chercher une détermination notionnelle, une définition de tout. Car il faut aussi voir d'un regard synthétique ce qui est analogue. Une petite précaution d'Aristote. C'est très intéressant ça parce que c'est au point de vue méthode. Aristote avait fait quelque chose d'analogue mais de très différent dans le livre Zeta. Il nous avertit que la philosophie n'est pas au niveau des définitions, contrairement à ce que avait fait la scolastique. La philosophie n'est pas au niveau des définitions. Nous ne définissons pas tout. Prétendre tout définir, c'est détruire l'intelligence humaine. C'est la ramener au niveau des catégories. C'est la ramener au niveau logique. Il faut comprendre que l'intelligence a une capacité plus grande et qu'elle peut saisir. Et alors, ce qu'il dit ici, c'est très, très joli. Mais il faut aussi voir d'un regard synthétique selon ce qui est analogue. Saisir dans un regard synthétique le quelque chose qui est analogue. Le quelque chose qui est analogue ne peut pas se définir. Par définition, le registre de la connaissance par l'analogie implique du plus et du moins, implique un ordre, et par le fait même, ne peut plus se définir. C'est toujours l'éclatement de la définition. Vous voyez, quelque chose d'analogue du côté de la substance, mais d'une façon moins précise. Du côté de la substance, j'allais dire, c'est avant tout l'ordre qui nous permet ce dépassement. Ici, il y a quelque chose de plus, puisqu'il souligne d'un regard synthétique selon ce qui est analogue. De même que celui... Alors voilà, voilà l'induction synthétique, analogique. Et c'est cela qu'on doit essayer de saisir. De même que celui qui bâtit est relatif à celui qui est capable de bâtir, de même aussi celui qui est éveillé est relatif à celui qui dort. C'est quand vous êtes éveillé que vous dites que vous êtes relatif à ce que vous avez dormi, hein, n'oubliez pas. Parce que quand vous dormez, c'est plus difficile que de dire que vous êtes relatif à l'éveillé. Tandis que quand vous êtes éveillé, c'est plus facile de dire que vous êtes relatif à celui qui dort. Celui qui voit à celui qui a les yeux fermés, mais possède la vue. Celui qui a été séparé de la matière à la matière. Et ce qui a été achevé à ceux qui est non travaillé. Que cette différence, l'une des deux parties, soit l'acte, c'est donc que de cette différence, l'une des deux parties soit l'acte, en ce qu'il a de distinct, et l'autre, ce qui est en puissance de. Donc Aristote donne des degrés différents d'expérience, qui l'unit toutes, parce que toutes ces expériences ont quelque chose d'analogue, il y a un ordre, celui qui bâtit est relatif à celui qui est capable de bâtir, celui qui est éveillé à celui qui est relatif à celui qui est éveillé est relatif à celui qui dort, et ainsi de suite. Il prend dans des domaines différents, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il prend dans des domaines différents. Je crois que ces domaines ne sont pas indifférents. Mais il saisit justement ce que nous pouvons immédiatement saisir par une expérience. Une expérience déjà un peu élaborée, c'est bien évident, mais une certaine expérience. Il saisit ces différents niveaux. Et il montre qu'il y a quelque chose d'analogue dans ces différentes expériences. Et ce quelque chose d'analogue dans ces différentes expériences, c'est justement ce principe qui permet de rassembler ces expériences et donc de les dépasser. Puisque l'expérience ne peut être unie à une autre expérience, vous ne pouvez unir celui qui bâtit, celui qui est éveillé, qu'en dépassant celui qui bâtit et en dépassant celui qui est éveillé. Autrement, vous avez deux expériences irréductibles. Si vous les unissez, ça prouve que vous dépassez. Alors, on met en parallèle ces différentes expériences, on saisit l'ordre commun, analogique, de ces diverses expériences, ce qui permet à l'intelligence de dépasser ces expériences et de saisir ce quelque chose de commun. C'est une induction d'un type très particulier. Je crois que c'est l'induction, pour Aristote, la plus puissante, la plus difficile à faire, parce que c'est la plus analogique. Et le problème de l'analogie est toujours un problème très éprouvant pour l'intelligence. C'est très éprouvant, l'analogie. Pour une intelligence habituée à des choses nettes et précises, pour une intelligence mathématique, bien que le mot analogion vienne des mathématiques, c'est très éprouvant, puisque c'est justement essayer de saisir ce qui nous échappe tout le temps. Au moment où vous croyez le saisir, ça vous échappe. Réfléchissez sur ces diverses expériences, il faut simplement, ça, on peut tous réfléchir sur ces expériences, hein, c'est pas bien difficile. Réfléchir sur ces diverses expériences, ce qui est difficile, c'est de voir l'ordre qu'il y a dans ces différentes expériences, de saisir ce qu'il y a de commun dans ces différentes expériences, et en saisissant ce qu'il y a de commun dans ces différentes expériences, le dépassement de ces différentes expériences. Et alors, le résultat, que de cette différence, l'une des deux parties soit l'acte en ce qu'il y a de distinct, et l'autre, ce qui est possibilité de. Oui, simplement ça. On ne va pas plus loin. Il faut rester là dans la perspective. Toute réalité, d'ailleurs, ne sont pas dites en actes de manière semblable, mais ou bien selon ce qui est analogue, comme cette réalité dans cette réalité, ou bien relativement à cette réalité, ceci dans cela ou relativement à cela. Alors, la petite réflexion critique, vous voyez, qui suit ce premier effort positif, direct, par rapport à l'expérience. La petite réflexion critique qui nous montre tout simplement que l'ordre qui existe entre ces diverses réalités n'est pas le même. Vous voyez, c'est pour opérer mieux le dépassement. C'est le tremplin, si vous voulez. Parce que c'est difficile, vous comprenez, quand il s'agissait de la substance, il s'agissait uniquement du dépassement des catégories. Donc, c'était relativement simple, parce que simplement la substance première et la substance seconde me permettait de faire ce dépassement de l'usia. S'il y a substance première et substance seconde, et qu'il y a un ordre, et Aristote souligne, et dans les substances secondes, il a encore manifesté l'ordre. Il y a donc un ordre à l'intérieur des substances secondes, et il y a un ordre de la substance seconde à la substance première. S'il y a un ordre, il faut saisir le principe de cet ordre. Il faut saisir ce qu'il y a de commun dans cet ordre. Il y a quelque chose de commun entre substance seconde et substance première. Et ce quelque chose de commun, c'est l'ousia. L'ousia qui n'est plus saisie au niveau de la substance première, au niveau de la substance seconde, mais qui est saisie à un autre niveau, qui est saisie au niveau de l'être. Ce qui est. Et vous comprenez bien que c'est nécessairement au niveau de ce qui est, puisque substance première, c'est le sujet existant. Vous avez oublié. Et substance seconde, ce n'est pas le sujet existant, c'est au contraire l'attribut. C'est au contraire, si vous voulez, l'universel qui ne donne que l'aspect quiddité. La quiddité est parfaitement saisie dans la substance seconde. La substance seconde signifie la quiddité. Vous voyez, si la substance était quiddité, elle serait substance seconde et la substance première ne serait pas quiddité, ne serait pas substance. Ceci, c'est pour montrer tout de suite, hein, on voit immédiatement. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir aux catégories, parce que ça nous permet de comprendre, au fond, ce que représente cette première induction du dépassement de la substance première, substance seconde. Donc, c'est le dépassement des catégories. Vous voyez, il y a un premier dépassement des catégories dans la substance première. Il y a un second dépassement des catégories au niveau de l'être. Et je suis bien au niveau de l'être parce que, justement, substance existante, le sujet premier, c'est la réalité existante. La scolastique dira le suppos. Vous voyez bien qu'on ne peut pas définir la substance par le suppos. Parce que le suppos, c'est la substance première. C'est ça, ce qui reçoit, ce qui est capable de recevoir. Et alors, si on met substance première et substance seconde, la substance seconde est relative à la substance première. La substance première est bien substance au sens fort, en ce sens qu'elle est le terme, et que la substance est toujours quelque chose d'ultime et de dernier. Mais la substance ne peut pas être substance première, dans sa définition de ce qu'elle est, parce qu'alors la substance seconde ne serait plus véritablement substance. Si elle est substance, elle a donc quelque chose d'irréductible à la substance première. Et c'est vrai. Elle a quelque chose d'irréductible. Elle a une autre modalité de la substance. C'est une autre manière de la penser. Quiddité, sujet. Vous retrouvez ça, du reste, dans le livre Zeta. Alors, l'ousia me permet. Quand il s'agit de l'acte, vous comprenez que je suis dans une situation tout à fait différente. Aristote ne fait plus appel directement aux catégories. C'est là, justement, où on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il fait appel à d'autres expériences qui sont toutes dans un jugement d'existence. Toutes sont dans un jugement d'existence, puisque vous prenez la réalité, celui qui bâtit est relatif à celui qui peut bâtir. On va donc saisir un ordre entre deux réalités, l'une qui est en acte, l'autre qui est une capacité. Il y a un ordre entre les deux. Ou bien mettez la flèche dans l'autre sens. Ça dépend comment vous la regardez. Celui qui bâtit, il est en acte. Celui qui bâtit, il est en acte. Celui qui bâtit, il est une substance première. C'est évident ce qu'il bâtit. Mais ce n'est pas la substance première que je regarde. C'est son opération. Cette opération particulière, il bâtit. Donc, l'opération comme telle, nous savons bien, elle n'est pas directement dans les prédicaments. Donc, c'est autre chose. Les prédicaments ne sont plus immédiatement présents dans cette induction nouvelle. C'est l'opération et la capacité d'opérer. La dunamis. Et on voit le dépassement de la dunamis. Alors, par la dunamis, vous pouvez dire que les catégories sont présentes. Je veux bien. Mais les catégories sont du côté de la puissance. Pas du côté de l'acte. Du côté de l'acte, c'est au contraire l'opération comme telle. Je prends une opération. Donc, je prends un exemple au niveau de l'activité humaine du facere. Parce que c'est là où c'est le plus évident. Toujours, hein, mon activité du facere, c'est toujours ce qu'il y a de plus évident. Celui qui bâtit et qui est capable de bâtir, bon, tout le monde réfléchit là-dessus, celui qui est en train de bâtir et celui qui est capable de bâtir, on comprend très bien, c'est deux états différents. Il se repose, il agit. Bon, il est éveillé. Alors, encore en acte, il est éveillé. Mais alors, c'est au niveau beaucoup plus général du vivant. tout vivant a un rythme particulier, c'est qu'il dort. Donc quand il dort, il est capable de s'éveiller. Vous voyez, là, c'est un état particulier. Il est capable de s'éveiller. Donc, c'est encore une capacité. Et puis, il est éveillé, comme vivant. Donc, c'est le vivant en acte. Et c'est le vivant en puissance. Je suis au-delà de l'opération et je suis au niveau du vivant. Le vivant implique nécessairement la substance, comme vivant. Ça fait appel au-delà de l'opération particulière, ça fait appel proprement au vivant qui est substantiel, qui est un vivant qui implique le point de vue de la substance. Celui qui voit, troisième, donc celui qui voit, je suis là encore de nouveau dans les opérations, mais ici, opération vitale de la connaissance. En acte et en puissance. Donc, un ordre, deux états particuliers. Ce sont des états particuliers du même individu, de la même substance, du même sujet. Substance première, le sujet, il unit les deux. Il y a quelque chose qui unit les deux. C'est celui qui est capable de bâtir et celui qui bâtit, celui qui est éveillé et celui qui dort. Bon, il y a toujours une réalité sous-jacente à ces deux états qui permet de comprendre qu'entre ces deux états, il y a un ordre. Mais vous voyez, c'est ça l'astuce de cette trouvaille d'Aristote, c'est qu'au niveau quiditatif, l'état 1 et l'état 2 sont les mêmes, puisqu'il y a sujet commun. C'est le même homme qui... C'est les deux au niveau quiditatif. Je suis donc nécessairement au-delà de l'aspect quiditatif. Je suis en face de deux états qui représentent l'un en acte, l'autre en puissance. Continuons. Celui qui voit, ce qui a été séparé de la matière, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, à la matière. On peut gloser de diverses manières. Ce qui est séparé de la matière... Et ce qui est lié à la matière, ce qui est séparé de la matière, on pourrait dire, si vous voulez, on peut le comprendre de diverses manières. Donc, quatrième expérience, que veut dire l'eidos, séparé de la matière. L'eidos est séparé de la matière. Aristote aime bien dire ça, c'est pour ça que c'est une expression assez classique dans Aristote. On l'a trouvé dans le livre de Zeta. L'eidos est séparé de la matière, et puis ce qui est dans la matière. Il est évident que ce qui est séparé dans la matière est en acte d'une manière particulière. L'eidos est en acte d'une façon particulière par rapport à la matière. Parce que dès qu'il est dans la matière, il est composé. Tandis qu'en tant qu'eidos, il a quelque chose de séparé. Donc, on pourrait dire que là, on est en face d'une certaine manière... Hein, la manière dont il va assumer le platonisme. Parce qu'il y a toujours ça, il y a toujours cette idée-là derrière, il ne faut pas l'oublier. Et puis, ce qui est achevé, donc ici 4, ce qui est achevé, ce qui est parfait. Parce que achever, c'est d'être parfait, c'est d'avoir atteint son terme. Donc, il a atteint son terme, là. Je dis ça exprès parce que c'est la question du péra, c'est de la fin. Hein? Ce qui est achevé et ce qui n'est pas achevé, ce qui est inachevé, ce qui est imparfait. Alors ça peut s'entendre là aussi de diverses manières. Ça peut s'entendre de l'opération morale, ça peut s'entendre de toutes les opérations, ça peut s'entendre... Ce qui est intéressant, c'est de voir que de fait, c'est toujours ces deux états particuliers qu'Aristote saisit. Donc l'induction est au niveau de l'ordre qui existe entre deux états particuliers d'une même réalité. Une même réalité peut être dans deux états différents. Donc, la réalité qui est la même, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Elle ne me permettra pas de saisir. Il faut donc essayer de comprendre que c'est justement l'ordre entre ces deux états qui se situe à des niveaux différents, puisque ça se situe au niveau de l'opération, au niveau du vivant substantiel, de nouveau au niveau de l'opération vitale, au niveau de l'eidos. Alors là, on est au niveau de la forme, au niveau de ce qui est séparé en acte d'une certaine manière. C'est toute réalité qui peut être séparée de l'acte. Ça peut impliquer n'importe quoi qui peut être séparé de l'acte et ce qui est lié à la matière. Ce qui peut être séparé de la matière et ce qui est lié à la matière. Ce qui est parfait et ce qui est imparfait, là encore. C'est très très général ça. Je crois que les trois premières sont des expériences très nettes et les deux dernières généralisent. Mais vont plus loin qu'on peut aller. C'est du reste intéressant parce que ça permet au point de départ d'avoir toute sa généralité. Tandis que les trois premières sont très nettes, hein, ces trois expériences très nettes. Là, je peux avoir ces expériences multiples et diverses. Et Aristote fait ça exprès pour avoir la base de l'induction la plus générale qui soit, pour vraiment regarder toutes les réalités que je peux expérimenter. Toutes les réalités que je peux expérimenter. Je peux toujours expérimenter à l'égard de n'importe quelle réalité deux états. C'est ça, je crois, la base de l'induction. Saisir à l'égard de deux réalités, deux états. Et ces deux états se présentent à nous de deux manières tout à fait différentes. Et c'est ce qu'il souligne. Toutes les réalités, d'ailleurs, ne sont pas dites en acte de manière semblable, mais ou bien selon ce qui est analogue, comme cette réalité est dans cette réalité, ou bien relativement à cette réalité. Ceci dans cela, relativement à. En pros. Le en pros. C'est aussi très important de voir qu'on n'arrête pas uniquement au pros. On prend le en aussi. Parce que le pros, ce serait comme si l'acte était extérieur. Le en prend l'acte à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il saisit les deux. On peut très bien, l'eidos est dans la matière aussi est vers la forme. L'état parfait est au-delà de l'état imparfait, l'imparfait est ordonné vers, mais, donc là c'est uniquement ordonné vers. Mais on peut très bien prendre aussi l'opération vitale, elle est à l'intérieur d'eux, la capacité de voir, c'est pas quelque chose d'extérieur. Et je crois que ceci, c'est très important pour bien saisir, à la différence de la substance qui est toujours dans, l'acte est au-delà. Alors ceci, c'est pour caractériser ces deux relations, ces double facteurs de cette relation. Ce n'est pas une relation d'un seul sens. C'est une relation qui peut impliquer la double, au fond une certaine réciprocité, et c'est vrai. Au niveau des états, il y a une certaine réciprocité. Je connais l'acte par la puissance, je connais la puissance par l'acte. La puissance est ordonnée vers et l'acte est dans. Donc il y a le double mouvement. Et ce double mouvement me permet de comprendre que l'induction va saisir un principe, c'est-à-dire l'être en acte, non pas séparé de la puissance, mais au-delà de la puissance. Les unes, en effet, sont dites comme le mouvement relatif à la puissance, les autres comme la substance relativement à une certaine matière. C'est d'une autre façon encore que l'infini. Alors ça, c'est autre chose. Nous allons voir les diverses modalités. Je ne veux pas m'attarder, puisque nous aurons un séminaire sur cela. Non, ce n'est pas la peine de m'attarder trop. N'est-ce pas? Mais ce que je voulais simplement souligner, c'est que nous sommes là en présence d'une induction, et Aristote va toujours très vite pour les inductions. Enfin, n'oubliez jamais que quand c'est difficile, on va toujours très vite. On pousse l'accélérateur, que voulez-vous? C'est un mauvais moment à passer. Alors ça passe vite. Si vous allez lentement, ça n'ira pas du tout. C'est l'intelligence mise en appétit, c'est ça qu'il faut comprendre, l'intelligence mise en appétit qui veut unir ces diverses expériences pour voir ce qu'il y a de commun dans ces diverses expériences, ce qu'il y a de commun ne peut se situer qu'au niveau de l'être, et c'est pour ça qu'il prend exprès la diversité, parce qu'autrement on dirait, ah mais oui, l'acte et la puissance ce n'est qu'au niveau du vivant. Non, matière et forme, parfait et imparfait, c'est pas seulement au niveau du vivant. Vous avez donc quelque chose qui vous oblige d'aller jusqu'à la substance. La substance est impliquée elle-même dans cette induction. Parce que la substance peut être dans deux états différents. On le voit chez le vivant, il est éveillé et il dort. Et c'est le même individu, c'est le même vivant. Donc, il faut aller jusqu'à la substance. Il faut donc saisir que la substance elle-même peut être dans deux états, un état parfait, un état imparfait. Parce que la substance elle-même peut être dans deux états, je suis donc obligé de dépasser le point de vue de la détermination et la source de la détermination pour toucher dans l'être quelque chose de plus fondamental. Et quel est ce quelque chose de plus fondamental qui est en même temps quelque chose de plus ultime, puisque c'est pros et en. C'est l'être en acte, l'être en puissance. Alors à ce moment-là, en faisant cette induction, Aristote ne saisit plus et ne reste plus au niveau des états, parfaits et imparfaits, il saisit quelque chose de plus. C'est ça la très grosse difficulté. C'est ça la très grosse difficulté. C'est de comprendre qu'il saisit à ce moment-là quelque chose qui va plus loin que les états. Vous voyez, Avicenne est resté au niveau des états. Il a fait une espèce de projection. Et c'est pour ça qu'Aristote souligne qu'il faut saisir le petit quelque chose qui est analogue. Parce que le petit quelque chose qui est analogue, il n'est plus au niveau des états. L'analogue ne peut pas être au niveau des états, puisque c'est ce qui fait l'union de ces différents états. Ce qui fait l'union de ces différents états est au-delà de ces états. C'est le quelque chose de commun. Et c'est ce quelque chose de commun qui me permet de saisir le point de vue de l'être en acte et de l'être en puissance. Vous voyez, alors c'est à la fois très simple, comme toujours quand il s'agit de l'intelligence dans toute sa pureté, c'est vraiment très simple, c'est l'intelligence dans son état natif, encore plus que lorsqu'il s'agit de la substance, c'est l'intelligence dans son état natif qui saisit ce pourquoi elle est faite. Et ce pourquoi elle est faite, c'est de saisir l'être en acte. Et elle est vraiment faite pour ça. Elle est faite pour saisir l'être en acte. Et dès que je saisis l'être en acte, je saisis immédiatement que cet être en acte est séparé de l'être en puissance. Mais il peut être dans cet être en puissance. Il n'est pas séparé existentiellement, il est séparé intellectuellement. Logo, c'est l'intelligence qui le sépare, c'est l'intelligence qui le saisit. Mais il n'est pas séparé, vous voyez, existentiellement, comme si, de fait, je saisissais l'acte comme une autre réalité. Non, je saisis l'acte à partir de l'expérience de ces divers états comme quelque chose qui unit ces différents états. Comme quelque chose qui donne l'intelligence à ces différents états et qui permet à ces différents états d'exister. Donc je ne le saisis pas uniquement au niveau intelligible, je le saisis comme quelque chose de réel, puisque je pars de ces expériences qui existent. Je le saisis comme quelque chose de réel, mais je le saisis par l'intelligence. Et c'est vraiment là ce que c'est que la saisie d'un principe. Un principe n'est saisi que par l'intelligence et un principe est saisi à partir du jugement d'existence. Donc il est relié à l'existence, mais il est au-delà de l'existence. L'existence se donne à moi toujours selon deux modalités, ce qui est parfait, ce qui est imparfait, ce qui est éveillé, ce qui dort. L'existence me donne toujours selon ces deux modalités. Mais l'intelligence est capable justement de comprendre que ce qui est commun dans ces différentes expériences m'oblige de saisir, au-delà de l'expérience, ce qui rend raison de l'expérience. Mais ce qui rend raison de l'expérience, pas seulement au niveau de l'intelligibilité, mais ce qui rend raison de l'expérience au niveau de l'être. Parce que, de fait, ces expériences sont à des niveaux différents. Vous voyez, je crois que c'est cela qu'Aristote découvre dans cette induction analogique, synthétique. Donc on est en présence de quelque chose de nouveau. Alors ce quelque chose de nouveau, c'est évidemment toujours très difficile à saisir. Et c'est pour ça qu'immédiatement après, il montre les différentes modalités. C'est d'une autre façon encore. Donc il dit, les uns en effet sont dits comme le mouvement relativement à la puissance, les autres comme la substance relativement à la matière. Vous voyez comme c'est intéressant de voir que tout de suite, il prend les deux aspects, les deux modalités. Une modalité d'acte qui est au niveau de la substance, une modalité de l'acte qui est au niveau du mouvement. Et c'est ça que nous avons tellement de peine à saisir. L'acte est au-delà de la distinction que nous faisons instinctivement mouvement-substance. Vous comprenez que mouvement-substance, c'est ce que nous dirions dans un langage moderne, le dynamisme et le statisme. Hein? Parce que c'est ça. La substance, principe statique, d'autonomie. La substance est le principe d'autonomie, parce que c'est ce qui est le principe selon la détermination. Le mouvement, au contraire, c'est le fluxus. Donc c'est toujours ce qui est mu. Le pas de pareil. Eh bien, l'acte est au-dessus. L'acte explique le mouvement, l'acte explique la substance. C'est au-dessus. Explique, vous comprenez, me fait comprendre comment la substance peut être liée à la matière, comment la substance peut être non liée à la matière. Comment l'aïdos peut être séparé de la matière. L'acte est au-dessus. Mais là, c'est au fond une purification très grande de nos schèmes. Nous avons des schèmes, hein, des schèmes dynamiques et statiques. Ce sont des schèmes, pas plus que ça, ce n'est pas des principes. Ce sont des schèmes. Nous restons liés à l'image du mouvement, à l'image de la substance. Nous ne saisissons pas ce que c'est que l'acte et la puissance, alors nous reste ce que c'est que le... ce que c'est que le mouvement et ce que c'est que la substance, nous restons devant des schèmes. L'acte nous oblige d'aller au-delà et de saisir que l'être en acte, ce n'est pas l'être dynamique et ce n'est pas l'être statique. C'est au-delà de la substance, c'est au-delà du mouvement. C'est pour ça que cette petite remarque est très intéressante. C'est d'une autre façon encore, alors on donne encore un autre exemple, hein. Et on comprend très bien, c'est tellement difficile, hein, de saisir ce que c'est que l'acte. Alors on donne tout de suite des exemples. On dit le mouvement est l'acte. On dit le mouvement est la substance. Mais l'acte n'est ni le mouvement ni la substance. C'est d'une autre façon encore que l'infini et le vide, et toutes les réalités de cette sorte, sont dites en puissance et en acte. Façon autre que, pour beaucoup, des réalités existantes, par exemple celles qui voient, qui se promène et qui est visible. En effet, il est loisible que celle-ci soit parfois en vérité affirmée de manière absolue, car ce qui est visible l'est tantôt parce qu'il est vu, tantôt parce qu'il est en possibilité d'être vu. Tandis que l'infini n'est pas en puissance d'une façon telle qu'il existera en actes séparés. Alors là, nous entrons dans un problème très particulier, c'est le problème de l'infini chez Aristote. L'infini a beaucoup tracassé Aristote, on comprend. C'est un stimulant merveilleux. Alors il faut regarder dans la physique ce qu'Aristote dit sur l'infini, et puis ce qu'il dit ici. Est-ce que l'infini va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'acte? Ou est-ce que l'infini, au contraire, est toujours du côté de la potentialité? Ça, c'est la démolition absolue de Descartes. Avant que Descartes n'existe. Mais comme Descartes n'avait pas lu assez Aristote, il n'a pas vu. Il n'a pas compris. Et à partir de Descartes, n'oublions pas, hein, c'est tout ce qui va suivre. Donc, toute la pensée de l'ontologisme. C'est pour ça que c'est si important ce qu'il dit sur l'infini. De voir que l'infini est du côté de la potentialité. Et l'infini n'est pas du côté de l'acte. C'est énorme de dire ça. Parce que ça veut dire que l'infini n'est jamais, au point de vue de la pensée, quelque chose de dernier. Mais quand on dit, Apollinaire qui dit, l'infini c'est l'âme de la dialectique hégélienne. C'est très joli du reste. C'est l'âme de la dialectique hégélienne. L'âme de la dialectique hégélienne repose sur l'infini. Alors vous comprenez que si l'infini est en puissance et jamais en acte, vous comprenez immédiatement ce que ça veut dire. Bon, je ne vous le vois pas, je souligne simplement ça, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je regarde d'autres aspects. Hein. Les livres Kappa et Lambda. Oui, nous le verrons au séminaire. On verra au séminaire la question de l'infini, la question du vide. Alors, ceux qui n'y assistent pas pourront toujours hein, regarder Aristote. Les livres Kappa et Lambda de la métaphysique montrent l'utilisation de cette philosophie de l'acte et de la puissance. Donc, ce qui est intéressant, donc, avant de regarder Kappa et Lambda, hein, ce qui est intéressant, c'est que immédiatement après son induction, Aristote revient sur les poionti. Ça qui est très intéressant à voir. Il revient sur le poionti, c'est-à-dire les modalités, les manières dont l'acte et la puissance se présentent. Il ne reste qu'un instant, c'est dommage, hein, on aurait aimé que cet instant lumineux qu'il a eu, il nous dise un tout petit peu cette espèce d'étincelle qu'il a eue. Alors il ne nous le dit pas, parce qu'il trouve que c'est tellement évident. Il ne nous le dit pas, c'est tellement évident l'être en acte. C'est vrai, l'être en acte illumine notre intelligence. Ça illumine notre intelligence. Donc, si ça illumine notre intelligence, l'être en acte ne s'explique pas. Il explique tout le reste. Mais l'être en acte ne s'explique pas. Et l'être en acte explique même, explique même la substance. Et explique le mouvement. C'est ça, c'est admirable, ça, de voir ça. Que l'être en acte jette une lumière sur le mouvement, ça c'est sûr, et jette une lumière aussi sur la substance. Ce n'est pas la substance, mais ça jette une lumière sur la substance. Tandis que la substance ne jette pas une lumière sur l'acte. Au contraire, la substance peut être un obstacle si elle n'est pas saisie comme un principe. Si elle est saisie comme le sujet, elle est un obstacle. C'est pour ça que beaucoup de philosophies sont restées à la substance, n'ont pas atteint l'acte. Et je crois que ceux qui identifient substance et substance première n'arrivent jamais à saisir l'acte. Ils saisissent les modalités de l'acte. Ils saisissent l'essai, qui est la modalité de l'acte par rapport à la substance. Ça, nous le verrons. Parce que pour Aristote, ce n'est pas très très dit avec beaucoup de précision. Mais on peut aller plus loin. Aristote, il creuse, il nous donne quelque chose, une perspective, et puis nous devons aller plus loin. Alors, ce qui est intéressant, donc, vous voyez, c'est de voir le tiesti. Le tiesti est saisi à l'intérieur de l'induction et saisi par l'induction. Je ne peux pas saisir le tiesti de l'acte en dehors de l'induction. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de définition. Parce que la définition a l'avantage d'être saisie en dehors de l'induction. Alors on se repose d'un oreiller, le tiesti de la définition. Vous avez une définition, vous dormez tranquille. Tandis que lorsque vous êtes au niveau de l'induction de l'acte, vous ne dormez plus. Puisque c'est justement être éveillé qui me permet de saisir. Donc, je ne peux pas le saisir autrement. Donc, il faut être éveillé. Il faut que l'intelligence soit éveillée pour le saisir. Et elle est tellement bien éveillée qu'elle est au-dessus des deux mouvements substance première. C'est assez remarquable, ça. Donc, l'acte éclaire les deux. Tandis que la substance n'éclaire pas l'acte. La substance éclaire toutes les déterminations. Ça éclaire toutes les déterminations. Ça éclaire donc le sujet premier aussi. Mais ça n'éclaire pas l'acte. Il faut une autre vision pour éclairer l'acte. Alors, dans les livres Kappa et Lambda, donc, dans les livres Kappa et Lambda, de la métaphysique, on montre l'utilisation de cette philosophie de l'acte et de la puissance à deux niveaux différents. Le livre Kappa offre une justification très profonde de la manière de définir le mouvement par l'acte et la puissance. Donc Kappa, chapitre 9, 1065, B, 5 et 6. Il y a ce qui est en acte seulement, tomen energeia, et ce qui est en puissance, to dunamei, et ce qui est en puissance et en acte. Et cela, soit dans la substance, soit dans la quantité, soit dans les autres catégories. C'est très joli ce passage. Vous avez les trois aspects. Ce qui est en puissance et ce qui est entelechi, entelecheia, étant distinct dans chaque genre. J'appelle mouvement, vous voyez, une espèce de définition. J'appelle kinesis, l'acte, l'energeia, de ce qui est en puissance en tant que tel. Alors, c'est intéressant de retrouver dans la métaphysique cette fameuse vision que nous avons en philosophie de la nature. Et vous voyez qu'Aristote montre bien qu'il y a comme deux manières de regarder la kinésis. Je peux regarder le mouvement en philosophie de la nature, je peux regarder le mouvement en philosophie première. Alors évidemment, si je regarde un peu matériellement les choses, je dirais, comme beaucoup de critiques ont dit, le livre Kappa, c'est de la physique. Eh bien non, le livre Kappa n'est pas de la physique. Le livre Kappa fait partie de la philosophie première. Mais c'est tout simplement une illumination du monde physique par la philosophie première. Ça, c'est toujours le procédé d'Aristote. C'est le procédé de l'analogie. Je ne peux pas rester toujours au même niveau, mais dès que j'atteins un niveau supérieur, je peux reprendre le niveau inférieur dans une nouvelle lumière. Bon, nous en dirons encore un mot demain. Je ne resterai pas longtemps sur Aristote.